Soir, se souhaiter la bonne année avec ceux qui vont se rencontrer là où on sera les uns les autres. Et c'est vrai que c'est chouette aussi aujourd'hui de pouvoir avoir ces témoignages, de regarder en arrière ce que Dieu a fait dans nos vies, de se rappeler qui il est là où on l'a vu agir. Parce que, mine de rien, on va de l'avant et parfois, entrer dans une nouvelle année peut être source de crainte, peut faire stresser par rapport à l'avenir qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si, comme moi, vous recevez des mails, des spams, plein de choses qu'on n'a pas envie de recevoir, notamment dans cette saison, plein de mails de la part de voyants qui veulent nous avancer. Qu'est-ce qu'il y aura en 2019? De quoi sera fait l'année 2019? Qu'est-ce que va nous réserver l'année? Amour, santé ou succès? C'est bien sûr les grands thèmes qui ressortent. Et ces médiums sont partout. Si on tape sur Google, on a énormément de pages. Et ce n'est pas réservé aux crédules, ce n'est pas réservé à ceux qui ont fait le moins d'études. Je suis impressionné, je me suis baladé il n'y a pas si longtemps que ça dans le quartier de Cologny à Genève, qui est un des quartiers les plus riches de Suisse, je crois. Et puis, en façade d'une de ces grandes bâtisses, énorme demeure, il y a le nom de quelqu'un, médium, dans un des quartiers les plus riches, quoi. Et donc la consultation doit être assez riche aussi, assez chère. Mais voilà, l'avenir peut faire peur. L'avenir peut stressé. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir regarder en arrière. Et Paul et beaucoup d'auteurs de la Bible nous invitent à nous souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour affronter l'avenir, pour qu'elle ne soit pas source d'angoisse. Mais c'est vrai que de regarder les nouvelles, de lire le journal, peut être source de stress. On regarde et on parle encore de mort, de terrorisme, assez fréquemment, malheureusement. On voit la guerre en Syrie, on voit la Russie qui s'arme, et ça peut être source de crainte. On peut être aussi angoissé quand on regarde, comme chaque année, les nouvelles des prix qui vont augmenter en Suisse. Avec la Lamal qui va encore augmenter, etc., etc. Parfois, tout ce genre de choses rend pas l'entrée dans la nouvelle année extrêmement gaie. Alors, comment aborder l'année 2019? Et quel regard on peut avoir? Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles au psaume 110 pour réfléchir à notre manière d'aborder l'avenir. Alors, désolé Frédéric, tu m'as déjà entendu prêcher, hein, tu es déjà allé dans une autre église où j'ai prêché ce texte. Désolé pour toi. Voilà, c'est gentil. Et c'est David qui écrit ce psaume. Il y a bien longtemps en arrière, on est à peu près en moins en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et voilà ce que David écrit. Donc psaume 110. Donc, psaume de David. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement. Au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Ce psaume se présente comme un oracle, c'est-à-dire une parole de l'Éternel qui invite David notamment à regarder l'avenir. Et au final, dans ce psaume que David écrit, où il relate cet oracle, David nous rappelle une chose qui est importante pour nous, aujourd'hui encore, c'est que l'histoire appartient à Dieu. On peut regarder l'avenir sans crainte, parce que l'histoire n'est pas dans notre main, l'histoire n'est clairement pas dans la main des voyants, l'histoire n'est encore moins dans la main de Satan, mais l'histoire est dans la main de Dieu. Nous sommes dans l'histoire de Dieu que Dieu est en train de dérouler. À cause de cela, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais nous pouvons regarder l'avenir sans crainte, même avec joie et espérance, alors que nous sommes entourés de nouvelles qui peuvent être source de crainte et d'angoisse. J'aimerais reprendre avec vous quelques éléments de ce texte pour le mettre en évidence. Première chose, donc, c'est que ce psaume a été écrit par David, et cela est confirmé par cette parole du Seigneur quand il parle avec les pharisiens. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Donc clairement, c'est David ce que confirme Jésus ici qui a écrit ce texte. Et qui confirme aussi cet aspect, c'est que David ne parle pas pour lui. C'est un oracle. Quelque part, Dieu lui révèle qu'il va le faire quelque chose. Donc ce n'est pas concernant lui-même, même s'il sera incorporé là-dedans. Et la grande question, c'est alors, de qui parle David ? Au verset 1, quand il dit « Oracle de l'Éternel, de Yahvé, à mon Seigneur ». Qui est ce Seigneur ? Premier indice, verset 2, ce Seigneur va étendre, ou l'Éternel va étendre pour ce Seigneur, de Sion, le sceptre de la puissance. Sceptre et Sion, donc sceptre, clairement, nous sommes face à un roi. Et de Sion, c'est l'autre nom de Jérusalem, cette ville que David a conquise et il en a fait sa capitale. Donc clairement, ce roi qui vient est un descendant de David. C'est pour ça que je dis que David est aussi incorporé quelque part là-dedans. Ce roi, ce seigneur dont parle David, sera un de ses descendants, un de ses fils. Deuxième indice, c'est que David le voit comme quelqu'un de particulier, clairement à part. Premièrement, pourquoi on peut dire cela ? C'est qu'il appelle mon Seigneur. L'Éternel dit à mon Seigneur. Or, dans la culture de l'époque, on ne parle pas comme ça d'un de ses enfants. C'est les enfants qui honorent les pères et qui parlent plutôt comme ça de leur père. J'aimerais bien que mes enfants parlent comme ça de moi, mais ça ne marche pas trop. Mais c'est plutôt en effet, les enfants qui disent « mon Seigneur » pour honorer le père. Et ce n'est pas un père qui va mettre en avant ainsi un enfant à cause de cette tradition familiale où c'est l'honneur qui est apporté au père. Donc on est face à quelqu'un de particulier, un descendant particulier de David. Autre indice sur cet aspect particulier, c'est qu'il ne va pas exercer son règne comme David lui-même. Effectivement, verset 4, l'Éternel a juré, ne le regrettera pas, « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Ce Seigneur sera sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et ici, David, comme on l'a vu dans notre étude de l'Épître aux Hébreux, fait référence à cet événement de Genèse 14 où Abraham rencontre ce Melchisédek. Melchisédek était le roi de Salem, qui deviendra plus tard Jérusalem, qui fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Ce Melchisédek a la particularité d'être en même temps roi et en même temps sacrificateur, ce qui n'était clairement pas possible pour David en tant que roi d'Israël, parce que cet office de roi appartenait à la tribu de Juda et l'office de sacrificateur, notamment de souverain sacrificateur, appartenait à la tribu de Lévi. Et c'était les fils aînés qui avaient chacun cet office. Donc clairement, même s'il y avait un mariage entre quelqu'un de Juda et quelqu'un de Lévi, il ne pouvait pas avoir réunion ces deux offices, parce que c'était les hommes qui portaient cet office-là, d'accord ? Ce n'est pas la maman qui le transmettait. Donc, clairement, c'est cet office de roi issu de Juda et de sacrificateur issu de Lévi était incompatible en Israël. Et pourtant, Dieu est en train de dire que ce descendant, ce seigneur, le fils de David, va être roi, il sera seigneur, il va régner et sacrificateur. C'est-à-dire que Dieu est en train d'annoncer à David que dans l'avenir, il va faire quelque chose de nouveau. Il va changer l'alliance. Il va transformer cette alliance que Dieu a faite. Et il est en train de dire tout ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament, cette alliance qu'il a faite avec Israël dans l'Exode, ce don de la sacrificature à Aaron, tout cela a une portée pédagogique pour instruire le peuple vers ce que Dieu est en train d'accomplir. Ce n'était pas le but final. Cette fonction de Lévite, cette fonction de sacrificateur n'avait qu'une portée limitée, comme on l'a vu avec l'épître aux Hébreux, pour instruire le peuple sur son besoin d'un médiateur pour s'approcher de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus plus tard dira à ses disciples. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus dit lui-même que tout ce que la loi dit, non seulement les commandements, mais aussi les institutions, mais aussi les rites, tout parle de lui, tout conduit à lui. En fait, la mise en place d'Aaron devait instruire le peuple sur son besoin d'un sacrificateur, d'un médiateur pour s'approcher de Dieu. Même chose avec le tabernacle, même chose avec les commandements. Ça nous montre notre besoin que quelqu'un intervienne pour nous. Ce ne sont pas un ensemble de belles histoires, excusez-moi pour ceux qui font l'école dimanche, ça n'a rien de méprisant ce que je vais dire, mais ce n'est pas un ensemble de belles histoires pour les enfants, pour raconter à l'école du dimanche, mais c'est une histoire qui tout converge vers Jésus. Et c'est ça que Jésus est en train de montrer, et c'est ça que David voit comme révélation, c'est que tout cela pointe vers quelqu'un de plus grand qui doit venir. Et ce plus grand sera plus grand qu'Aaron, et encore même plus grand que David. Ce sera ce descendant de David, ce Seigneur qui va accomplir le dessein de Dieu. Et l'auteur aux Hébreux nous dit justement, parce que ce Jésus, celui que la loi pointe, celui vers qui tout nous dirige est venu, c'est pour ça que vous devez rester attaché à lui. Parce que si vous retournez à ces éléments annonciateurs, et c'est encore vrai pour nous, il y a des chrétiens qui sont plus malheureusement attachés au judaïsme qu'à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'auteur des Hébreux nous dit, ne retournez pas au judaïsme, mais allez vers l'accomplissement du judaïsme. Ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a toujours voulu, Jésus-Christ. Et c'est l'argument de l'auteur aux Hébreux. Ne retournez pas à cela, mais allez vers l'accomplissement. Restez attachés, fermes à Jésus-Christ, parce qu'y retourner équivaut à rejeter Jésus-Christ seul. Et enfin, la manière dont David parle au verset 5 de ce descendant a une certaine ambiguïté. Regardez avec moi. Le Seigneur et à ta droite. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est de qui David parle ici? C'est qui le Seigneur? Est-ce que c'est toujours son descendant? C'est possible. Mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est Dieu qui est à la droite de ce descendant. Or, être à la droite, c'est la place d'honneur. C'est-à-dire que le roi fait une faveur à Dieu en le mettant à sa droite, n'est-ce pas? Ou alors, ce Seigneur, c'est... Pardon, j'ai inversé ce que je viens de dire, excusez-moi. Soit le Seigneur, c'est Yahvé, et donc Yahvé est à ta droite, il parle justement de son descendant, et donc Yahvé est à la droite de son descendant, et donc il fait une faveur à l'Éternel, soit... Il parle à l'Éternel en disant « Le Seigneur est à droite », donc le descendant est à ta droite. Mais il continue à parler à l'Éternel en parlant de ce descendant. Il écrase les rois, il exerce le jugement. C'est-à-dire qu'il exerce des prérogatives qui sont divines. Et c'est là qu'on a cette forme d'ambiguïté quand on pose cette question, mais à qui il parle ici, de qui il parle David? Que ce soit l'un ou l'autre qu'il parle directement à l'Éternel ou qu'il parle à son descendant au final, on voit qu'il y a une très grande proximité entre ce descendant et l'Éternel. Il y a une énorme intimité qu'on pourrait presque dire une interchangeabilité au point que ce descendant est presque divin. Et que fera ce descendant? D'une part, on l'a déjà dit, sera ce roi sacrificateur qui va être roi pour représenter Dieu et conduire le peuple dans la justice, et sacrificateur pour être cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais avec le verset 1, on peut aller un peu plus loin. Dieu va susciter un descendant à David pour que Dieu agisse lui-même contre les ennemis de son descendant. Et David nous explique comment il va le faire avec les versets 2 à 4. Premièrement, dans un premier temps, Dieu va agir depuis Sion. Ce roi sacrificateur, ce descendant de David, verra son autorité contestée. Ses ennemis seront là, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Il va régner, mais les ennemis sont encore là. Il y a autorité contestée. Mais en faisant cela, verset 3, ton peuple est plein de dévouement. Dieu va regrouper autour de lui, alors que cette autorité est contestée, Dieu va regrouper autour de ce descendant son peuple. Le peuple qu'on attend. Et là, il faut se souvenir de la promesse tripartite que Dieu a faite à Abraham. « Je serai ton Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. » Il est en train de dire quoi? Ton peuple. Dieu va réunir ce peuple. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham, Dieu va l'accomplir notamment au travers de ce descendant. Il aura son autorité contestée, mais elle va venir. Mais pendant que cette autorité est contestée, il va ramener à lui, il va regrouper son peuple. Et versets 5 à 7, vient le temps du jugement où le roi sacrificateur va écraser toute opposition et juger toutes les nations. Ce qui veut dire que le mal, l'opposition, la contestation qui vient avec son autorité sera écrasée. Et là, il faut qu'on fasse une pause dans notre étude de ce psaume en nous rappelant où c'est que nous en sommes dans le récit biblique, dans l'intrigue biblique qui est en train de se dérouler. Et vous vous souvenez que tout commence avec Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève pour vivre dans l'harmonie avec lui, autour de lui, dans sa présence, n'est-ce pas? Mais ils l'ont rejeté, ils ont voulu en faire qu'à leur tête, ils ont voulu être Dieu à la place de Dieu, et à cause de cela, il y a eu séparation. Ils ont été rejetés du jardin. Mais Dieu n'a pas laissé cet état de fait, et dès qu'il y a eu ce rejet, dès qu'il y a eu cette séparation, Dieu s'est engagé à faire une promesse, Genèse 3,15, cette promesse est la suivante, quand il parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera le talon, mais tu lui écraseras la tête. Je n'ai pas tout à fait bien cité. Ouais, c'est le même terme en fait. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ça, c'est mieux cité. Voilà. D'accord? Donc Dieu fait tout de suite une promesse. L'ennemi va être détruit. Je vais susciter à sept femmes rebelles et à sept hommes rebelles, à sept hommes et sept femmes qui m'ont rejeté, je vais susciter un descendant. Et ce descendant va détruire l'opposition. Ce descendant va permettre la réconciliation. Ce descendant va permettre de revenir dans l'harmonie, d'être à nouveau autour de Dieu. Et le récit continue, biblique. Et Dieu... Alors qu'il y a une nouvelle chute, un nouveau rejet dans ce temps-là des patriarches, ou avant les patriarches plutôt, Dieu appelle Abraham, un vieux, qui franchement n'est plus très capable. Et on se dit, mais pourquoi il n'a pas lui avec une femme stérile? Mais c'est parce que c'est Dieu qui fait quelque chose. Ça nous montre que c'est que Dieu qui agit et Dieu promet la bénédiction. Devient une source, soit une source de bénédiction pour les Juifs? Non. Pour tes descendants? Non. Pour toutes les nations. Dieu continue à s'intéresser à toutes les nations, à tous ces peuples qu'il a créés. Et il suscite Abraham pour cela. Et il va libérer son peuple quand il va être dans les descendants d'Abraham vont être esclaves en Égypte. Il va les libérer avec l'Exode, sous la conduite notamment de Moïse. Et il va susciter alors Aaron pour être ce souverain sacrificateur, cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais pas juste pour le plaisir des Juifs, encore une fois. Le but, la mission du peuple juif, c'est quoi? C'est soyez un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Une nation sainte, c'est-à-dire soyez un peuple qui vit de manière à faire envie à tous les autres peuples. C'est-à-dire soyez une source de bénédiction pour toutes les nations. La bénédiction, le projet de Dieu continue. Et plus tard, alors que le peuple est dans le pays et qu'il perd le contrôle de son pays à cause de la rébellion, Dieu va susciter David, ce David qui écrit justement notre psaume. Et c'est grâce à ce David que Dieu va redonner le repos. Ce repos dont on avait commencé à lire au début du chapitre 2 de la Genèse, où Dieu se reposa. Dieu prend le temps d'être avec son peuple. Et à nouveau, grâce à l'intervention de David, que Dieu a choisi, qu'il a équipé et qu'il a conduit pour balayer le pays des ennemis, Dieu accorde à nouveau le repos. C'est à nouveau un pays du repos où le temple est présent, où on peut célébrer Dieu, s'attacher à Dieu. Dieu vit à nouveau au milieu de son peuple. Et la bénédiction peut alors à nouveau continuer. Mais la question, c'est du temps de David. Il y a encore des ennemis, n'est-ce pas? Les Philistins n'ont pas été balayés. Et il y a beaucoup d'autres nations autour d'Israël qui en veulent à Israël. Mais il y a pire que ça. C'est qu'il y a un ennemi qui est encore plus grand que les autres nations, c'est l'ennemi qui est dans le cœur de l'homme. Et on voit cela avec l'adultère de David, avec Bathsheba. Et on va voir les catastrophes que ça va entraîner avec une déchirure dans la famille de David. Il y aura lui-même David qui va commettre un meurtre pour essayer de cacher son adultère. Il y aura un viol. Un de ses fils va violer une de ses filles. Il y aura à cause de cela un fratricide. Un de ses, le frère direct de cette fille va tuer son demi-frère pour venger sa sœur de ce viol. Et ça va entraîner encore une séparation dans le pays. Mais de ce temps de David, ok, le repos est quasiment là, mais pas vraiment là, c'est pas encore parfait. Et on peut se dire, où est la bénédiction? Où est-ce que le monde est encore revenu dans la présence de son Créateur? Et ce n'est pas encore là. À l'échelle de sa vie, David peut trouver le temps long. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est inquiétant. Il y a des gens qui nous attaquent de l'extérieur et à l'intérieur, ça ne va pas non plus. Où est la bénédiction? Et David lui-même a connu l'angoisse, la maladie, l'abandon de ses proches, l'impression lui-même d'être abandonné de Dieu. Ces paroles que Jésus prononcera sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est David lui-même qui les a écrits au psaume 22, alors que lui-même se voyait abandonné de Dieu. Il a connu la lutte. Mais dans ces temps difficiles, dans ces temps d'angoisse, dans ces temps où la bénédiction n'est pas encore clairement là, Dieu parle à David et lui dit « David, regarde l'avenir avec espérance, parce que je vais te susciter un descendant. Je vais te susciter un descendant qui va venir et qui va mettre un terme au mal. Je vais te susciter un descendant qui sera l'intermédiaire parfait entre moi et les hommes. Et il va être différent de toi, parce que regarde bien ce que je te dis. Tu es sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Toi, David, tu vas mourir. Et le souverain sacrificateur de ton époque, il va mourir. Mais ton descendant ne va pas mourir. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et la bénédiction va pouvoir se répandre. Alors toi, David, alors que tu connais l'angoisse, alors que tu connais les moments difficiles, alors que c'est la lutte autour de toi et peut-être encore en toi et dans ta famille et dans ton royaume, ne crains pas l'avenir. Ce descendant va changer les choses. Une nouvelle alliance va venir. On n'a pas le terme nouvelle alliance ici, hein, soyons clairs, mais je ne l'ai pas inventé. Mais il va changer les choses. Il va transformer la vie du peuple. Il va juger et mettre un terme à l'ennemi. Il va écraser le mal de l'opposition. Et grâce à lui, la bénédiction va venir. Alors toi, David, face à l'avenir, face à toutes tes difficultés, continue à vivre fidèlement. Attache-toi et marche avec Dieu. C'est Dieu qui déroule l'histoire. Toi, vis de manière fidèle. Et Dieu va s'occuper de la bénédiction qui va venir. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à retenir. Tout comme le monde à l'époque de David était inquiétant, notre monde peut être inquiétant, n'est-ce pas? Et quand Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien », il ne dit pas que le monde n'est pas inquiétant. Il dit « Le monde est inquiétant, il y a des Romains, ils mettent les personnes à mort, c'est inquiétant, mais ne vous inquiétez pas ». C'est pas eux que vous devez craindre, c'est moi. C'est à moi que vous devez être fidèle. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas dans la main des Romains. L'histoire n'est pas dans la main de César. L'histoire est dans la main de Dieu, comme à l'époque de David. Et Jésus, qui est le descendant de David, peut nous dire aussi, ne vous inquiétez pas, parce que l'histoire est dans sa main et il vient mourir à la croix justement pour conduire cette histoire au terme voulu par Dieu. Et ce terme voulu par Dieu, c'est justement la réconciliation, ce retour dans l'harmonie, ce retour parfait dans la présence de Dieu, là où il nous conduit et qu'on peut voir à la fin de l'Apocalypse, où tout œil le verra. Et à cause de cela, Jésus a la puissance de nous dire « Ne vous inquiétez de rien ». Il y aura des souffrances, oui. Franchement, en 2019, une fois certainement, on va pleurer parce qu'on en aura marre, parce qu'on aura mal. Mais Dieu peut nous dire, comme à David, regarde l'avenir avec confiance parce que c'est moi qui suis au contrôle. Certainement, tu vas connaître la maladie, peut-être des tensions dans ta famille, peut-être même des tensions dans l'Église. Mais ne regarde pas l'avenir avec crainte. Confie-toi en Dieu. Et pour cela, vis de manière fidèle. Parce que c'est comme ça que Dieu va répandre la bénédiction. Et c'est ça notre projet pour 2019, les amis. Notre projet n'est pas d'être heureux à tout prix. Le projet que Dieu nous fixe, c'est de répandre la bénédiction. Et répandre la bénédiction veut peut-être dire que certains d'entre nous allons avoir mal et allons souffrir. Pour que dans notre souffrance, Dieu soit rendu visible aux yeux de notre famille, peut-être de nos enfants, peut-être de nos voisins, peut-être de nos collègues, mais pour qu'ils puissent le voir et eux aussi prendre part à la bénédiction de la réconciliation. Et c'est pour ça que notre projet auquel on doit s'attacher, c'est la bénédiction. Si Dieu te permet de t'enrichir, enrichis-toi. Si Dieu te permet de te marier, marie-toi. Si Dieu te permet d'avoir des enfants, aie des enfants. C'est des belles choses que Dieu nous accorde. Mais avant tout, Dieu nous donne le programme de vivre sa bénédiction pour répandre la bénédiction, d'être fidèle pour que lui puisse la répandre au travers nous, que ce soit dans notre temps de joie ou dans notre temps d'épreuve, de souffrance. Parce que c'est l'histoire que lui déroule. Et j'aimerais juste faire une remarque avant de finir. On peut être dans la joie et l'espérance face à l'avenir, nous dit notre texte, nous dit David, au final nous dit toute la Bible, uniquement si nous faisons partie de son peuple. Uniquement si nous faisons partie de son peuple qui s'attache avec joie et fidélité à son roi. L'autre alternative, et c'est la seule et unique, est celle d'être son ennemi. Soit nous faisons partie de son peuple, soit nous faisons partie de ses ennemis. Et notre texte nous dit clairement que ceux qui font partie de ses ennemis seront détruits. Et l'avertissement ici pour chacun d'entre nous est solennel, les amis. Et la question est, de quel peuple fais-tu partie ? Fais-tu partie de son peuple ou fais-tu partie du peuple de ses ennemis ? Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de phrase de type « c'est intéressant, je vais y réfléchir, mais je me déciderai plus tard. Aujourd'hui, je veux vivre et profiter. » Non, parce que si c'est ça, aujourd'hui, tu fais partie de ses ennemis. Et l'alternative ou l'avenir qui t'attend, d'après notre texte, est l'écrasement, le jugement. Alors la question n'est pas combien de mal avons-nous fait, car le moindre mal est un rejet de Dieu. Mais la question est-ce que nous voulons laisser le roi descendant de David, Jésus-Christ, régner sur moi ? Lui, cette année, être mon Seigneur, parce que lui, il sait ce qui est bon pour moi. Le laisser, lui, cette année, me conduire, parce qu'il m'aime, et la preuve qu'il m'aime, c'est la croix. Si tu doutes que Dieu t'aime, regarde à la croix. Il n'y a pas de plus grande preuve de l'amour de Dieu pour toi, du fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour te réconcilier. Il a porté tes fautes, ton péché, parce qu'il t'aime, pour que tu ne sois plus son ennemi. Et la question est, veux-tu rester son ennemi ou veux-tu faire partie de son peuple ? Et la porte est grande ouverte. Le pardon est offert à celui qui veut s'approcher et accepter la seigneurie, la royauté, la volonté de Jésus-Christ pour cette année 2019. Et afin de pouvoir regarder cette année qui vient, mais aussi notre avenir avec confiance. Pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais regardez aussi les épreuves avec confiance et avec espérance. La bénédiction arrive. Et tôt ou tard, toi et moi, nous allons mourir. Sauf si Jésus revient avant. Tôt ou tard, nous allons mourir. Mais nous pouvons continuer à regarder l'histoire et l'avenir avec espérance, même s'il y a la mort. Parce que la bénédiction n'est pas seulement pour cette terre, mais la bénédiction est pour l'éternité. Et c'est pour ça que nous devons bien réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons vivre ? Quel est notre projet pour cette année ? La bénédiction éternelle ou le rejet éternel ? Et au final, c'est que ces deux choses-là. Et que nous puissions soumettre notre couple, notre famille, notre métier, nos richesses à la bénédiction que Dieu veut répandre. Afin que cette bénédiction puisse se répandre au travers nous et par nous durant cette année 2019. Je vous invite à prier.